J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies.
Palabre en forêt, l'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Bartas
107 FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Bonjour, auditrices et auditeurs de Radio Bartas 107 FM. Bonjour Virginie, bienvenue dans cette nouvelle émission de Palabre en forêt.
Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous.
De quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, nous allons rencontrer Jean-Paul Abatut et Valérie Romera, les nouveaux gérants de la Sirifage qui est à Bédouès-Cocurès, et ils vont nous présenter le métier de scieur. On rejoindra ensuite, comme d'habitude, Aymeric Sulmont pour sa rubrique « Plantes des bois ». Bonjour Valérie Romera, bonjour Jean-Paul Abatut.
Bonjour, bonjour.
Alors, pouvez-vous nous dire, du coup, voilà, quel est votre rôle, quelles sont vos missions au sein de la Sirifage?
Alors, moi, je suis la gérante. Je m'occupe plutôt de ce qui est la partie administrative. Voilà, toutes les commandes, les devis, etc. Et mon mari, lui, s'occupe plus de du côté technique, on va dire, la partie technique.
Ok. Oui, je suis dans la scierie. Je m'occupe de faire fonctionner la scierie, tout simplement, avec tout le personnel qu'on a. Et je vais aussi sur le terrain pour faire les achats de bois. Voilà.
Ok. Et du coup, depuis combien de temps cette scierie, elle existe? Et depuis combien de temps vous l'avez reprise, du coup?
Alors la scierie existe depuis 1973, nous l'avons reprise il y a un an, le 30 décembre 2020, voilà, elle était à Monsieur Fage, mais c'est son père qui l'avait créée.
Et pas à la meilleure période peut-être pour une reprise, non?
Si, au contraire, l'activité tourne très très bien.
Ah, très bien.
Et d'ailleurs, des gens pour nous taquiner nous disent « vous aviez bien calculé votre coût ». Mais c'est vraiment le hasard, c'est vraiment vraiment le hasard. On a eu de la chance.
Et du coup, voilà, quelles sont les essences alors que vous travaillez?
Alors, on fait essentiellement, on va dire, à 80% du bois qui est destiné à l'emballage pour les palettes.
Oui.
Donc là, c'est pin, sapin, épicéa.
Ok.
Et ensuite, on a une partie où on fait de la charpente. Donc là, la charpente, ça se fait en sapin, douglas ou mélèze. Voilà. Donc là, on le fait pour des artisans qui sont du coin et aussi pour des particuliers.
D'accord. Ça représente quel volume à peu près par an de sciage?
Alors, tout compris, ouais. Ça représente à peu près 9 à 10 000 mètres cubes.
D'accord, ah oui, c'est important.
Oui, ça fait beaucoup de sillage, oui.
Et oui, et votre rayon d'approvisionnement pour les bois?
Eh bien, ça se trouve, allez, on va dire, 60 km autour de la Syrie.
Ah oui, circuit court.
Oui, d'accord. Alors 60 km, ça paraît pas très long, mais avec le camion, c'est long.
Oui, voilà, surtout sur les routes, c'est
voilà, bien. Voilà.
Et en plus du sillage, est-ce que vous réalisez d'autres activités?
Non. En fait, la coupe en forêt est sous-traitée. C'est okay. des entreprises externes.
Et alors, vous nous avez dit voilà, que vous gériez l'équipe. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui travaillent à la scierie?
Nous sommes 11.
Ah oui?
Voilà, 11 personnes.
Une belle entreprise.
Oui, il y a quand même deux chauffeurs et ensuite, après, le personnel sur la scierie.
D'accord, qui travaillent tous sur la scierie pour la faire fonctionner.
Oui,
voilà.
D'accord, c'est quoi les types de métiers, en fait, du coup, qu'on peut trouver
Alors, si on le fait dans l'ordre, on va dire, donc il y a des chauffeurs. Mm-hmm. Il y a un chauffeur qui conduit le grumier, donc qui, lui, s'occupe que des approvisionnements de bois. Un chauffeur qui s'occupe des livraisons, des produits finis,
ouais.
ou des connexes. Mmh. Et ensuite, donc, quand le bois arrive, il y a une personne qui conduit une pelle avec un grappin. C'est-à-dire que quand on rentre le bois, on le rentre en grume. Et lui, il est là pour le débiter à la longueur. Il y a une autre personne qui conduit un chargeur qui va ou le ranger ou l'amener dans des chaînes qui vont rentrer dans la scierie. Ensuite, on a un scieur. Et ensuite, c'est plus des manutentionnaires. Et on a un mécano qui est là à temps complet. Mmh. Et il fait mécano, affûteur et magicien, parce qu'il arrive à tout faire.
C'est super.
Et en ce qui concerne du coup, les types de produits, vous nous avez parlé du coup que vous faisiez principalement pour l'emballage, les charpentes. Est-ce qu'il y a d'autres choses et est-ce que vous valorisez les produits connexes du coup, la sciure ou l'écorce, je ne sais pas.
Oui, alors donc on fait emballage et charpente et ensuite un produit connexe, la sciure, l'écorce et les plaquettes, donc c'est-à-dire les chutes de bois qu'on va broyer nous sur place. Donc on fait de la plaquette. Tout ça, on l'envoie dans une fabrique qui fait des granulés pour les poêles à bois.
D'accord.
Voilà.
Qui se trouve peut-être à Mende.
Non.
Même pas.
Dans l'Aveyron, à Sèvres-le-Château.
Ah, c'est l'entreprise Moulin peut-être.
Non, la Cogra.
La Cogra,
mais ils ont, en fait, ils ont aussi les bureaux à Mende.
Et oui, voilà. D'accord.
Mais l'usine est à Sèvres.
Et vous nous avez parlé des clients que vous pouvez avoir, comme les artisans ou les particuliers.
Oui.
Vous avez d'autres types de clients ou ce sont vos deux types de clients principaux, quoi, les professionnels?
Ça, c'est pour la charpente.
Oui.
Et ensuite, pour la partie palette, c'est des industriels, des fabricants de palettes.
D'accord, des professionnels de l'emballage,
oui.
Je crois.
Oui. Oui, c'est ça.
Ok. Et du coup, vos clients, ils se situent où à peu près géographiquement?
Bien, pour les artisans, autour de la Syrie, on va dire, dans le département.
Ouais.
Et les fabricants de palettes, ça va du Gard jusqu'à la Haute-Garonne.
D'accord.
En passant par Lyon aussi. Enfin, voilà. Là, c'est assez large.
Et est-ce qu'il est possible, en tant que particulier, si moi, par exemple, je veux acheter un petit lot avec des volumes, du coup, qui ne sont pas très importants, de directement s'adresser à vous?
Oui.
Bien sûr.
Oui, puisqu'on on fait du débit sur liste. Donc, là, c'est ma femme qui s'en occupe.
Voilà.
Elle reçoit les commandes ou les demandes, on va dire, des particuliers qui ont besoin de 2 pièces, 3 pièces, 5 pièces. Ils ont un petit garage à faire ou ils ont... voilà, ils sont faits. Oui.
Du sur-mesure.
Oui.
C'est du sur-mesure.
Ouais. Et est-ce que le métier de scieur... Alors, on n'a pas demandé si vous étiez scieur avant la reprise de la série Fab.
Alors, moi, pas du tout.
Ok.
C'est tout nouveau pour moi.
D'accord.
Pour monsieur, oui. Il a déjà travaillé dans une scierie, donc lui...
Il connaît. D'accord.
En fait, j'avais une fabrique de palettes pendant pas mal d'années. Ça s'est fait comme ça, ça a commencé comme ça, sur Toulouse.
Ah, oui.
Ensuite, une scierie dans les Landes.
D'accord.
Et puis après, il y a eu un changement de vie. Et puis, tous les deux, on s'est dit, tiens, on reprendrait bien une scierie. Et on n'était pas prédestinés à venir en Lozère, puisque nous, on est de Toulouse.
Oui.
On a vu une annonce, on est venu, et puis ça s'est fait petit à petit. Voilà. Ça nous a fait un an à peu près, c'est ça?
C'est ça.
Un an de négociation, et puis voilà.
On avait un projet de travailler en commun. Voilà, c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Et voilà, comme... il s'y connaissait bien dans le bois. Moi, j'ai dit, allez, je suis, et voilà.
Parfait.
Super aventure.
Oui. Et d'ailleurs, du coup, vous trouvez que le métier de scieur, il a un peu évolué ces dernières années?
Ces dernières années, pas énormément, mais forcément, ça a énormément évolué depuis une quarantaine d'années. C'est beaucoup moins manuel, c'est beaucoup plus automatisé. Il y a beaucoup plus d'assistance dans, par exemple, le scieur, quand il faisait son travail il y a quelques années, il le faisait pratiquement de visuel.
Oui.
Maintenant, il y a des logiciels qui lui permettent de... On lui dit simplement ce qu'on a à faire. Le logiciel, on rentre les dimensions. Et ensuite, c'est optimisé au maximum.
Oui.
Donc voilà, il y a plus, on va dire, d'aide. Voilà.
Oui, oui, oui. On avait rencontré avec Nathalie Trémel, c'était il y a 2-3 ans, lors des Assises Régionales Forêt-Bois, les scieries 4.0, où justement on voyait que tout était automatisé.
Oui. Oui.
Après quand même, est-ce qu'il faut contrôler? Parce que la machine, elle peut aider.
Oui, mais il faut toujours contrôler. Oui.
Donc il faut garder le savoir-faire visuel, comme vous dites.
Et pour finir, est-ce que vous avez un petit mot forestier à nous partager?
Alors, on a un petit mot, mais pas du tout forestier.
Allez-y quand même.
Il ose.
Voilà, on a un message à faire passer.
Ah ben, allez-y, une petite annonce.
Exactement. Donc, puisque ça fait, nous, un an qu'on est ici, en fait, quand on a mis en place ce projet, on s'est dit, réglons toute la partie professionnelle. Et ensuite, on fera notre déménagement, on se logera, ça sera une formalité. En fait, c'est pas du tout une formalité dans la région.
On a compris.
C'est ce qui est le plus difficile. C'est oui, introuvable.
C'est vrai.
Donc, notre petit mot, c'est pour trouver une maison ou pour trouver un terrain. Voilà.
S'il vous plaît, voulez-vous loger, madame Omera et monsieur Labatut.
Ouais, okay. Ouais.
Du côté de Bédouès, du coup?
Ici, quoi.
Aux alentours.
Aux alentours, ouais. Voilà.
D'accord. Très bien. Eh bien, le message est passé.
Voilà.
Merci.
Merci.
Merci pour votre temps, Jean-Paul et Valérie. Et à bientôt, j'espère.
Ben oui,
merci.
Avec plaisir.
Avec puis, plaisir.
Si vous voulez venir visiter la Syrie, ce sera avec plaisir aussi.
Alors, avec plaisir. Oui. C'est noté.
Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Merci. Au revoir.
Vous êtes toujours sur Radio Bartas 107FM et nous vous proposons une pause musicale avec Holocow et leur titre The Wood.
We're all falling and we need a place to hide. A safe place somewhere in the woods we can start a fire. All we know is what will be our home. We will stay until break of dawn. The cold night takes us to a place to escape the chill. Up somewhere in the woods on a hill, wake up feeling the cold in between our toes. Is there a way back? Nobody knows. And we leave it all behind. Can't you see we need some time? And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. We feel so much better now.
Et on retrouve Aymeric Surlemont. Vous êtes toujours dans Palabre en forêt sur Radio Partas 107 FM. Bonjour Aymeric.
Bonjour.
Alors voilà, ta rubrique Plantes des bois va aujourd'hui un petit peu évoluer. Elle devient la rubrique Plantes et animaux des bois. Et aujourd'hui, tu nous parles de...
Des coléoptères.
Oui.
Oui, je trouvais intéressant de faire évoluer un petit peu cette rubrique plantes des bois parce que les animaux ont aussi pas mal de choses à dire et notamment aujourd'hui c'est les coléoptères et on va voir qu'il y a un lien très très proche entre les coléoptères et les champignons de la forêt. Mmh. Alors qu'est-ce que c'est déjà les coléoptères ? Les coléoptères, tout le monde les connaît, hein, ce sont soit les coccinelles, les scarabées, les bousiers, les chrysomèles, les buprestes, enfin il y en a tout un tas. Et c'est un groupe d'insectes qui est extrêmement varié. Sur les 50 000 insectes qui ont été inventoriés en France, on en a 10 000 qui sont de ce groupe d'insectes, donc 10 000 coléoptères. Ce qui veut dire que rien que dans le parc national des Cévennes, où on a à peu près 50% de la biodiversité nationale, on a, en tout cas pour la flore c'est à peu près le cas, on aurait pas loin de 4 à 5 000 espèces de coléoptères.
Oui.
Et aujourd'hui, les dénombrements qu'on en a fait, on en est à peine à 2 000, tout juste. Donc on est à peine à 40% de ce qui existe encore et qu'on n'a pas inventorié. C'est ça c'est un petit peu intéressant. Donc c'est pour ça aussi que je vous en parle. Et puis parce que moi-même, je fais partie d'un groupe qui étudie un groupe thématique au niveau du parc qui étudie ce groupe d'insectes. Et on fait plein de découvertes intéressantes et je voulais vous en faire part un peu aujourd'hui. Voilà.
Et ce groupe, qui en fait partie ?
On est 5 sur l'ensemble du parc à étudier ouais. Ça, à poser des pièges et à étudier dans les forêts principalement anciennes du parc.
D'accord, vous piégez les coléoptères
ouais, pour mieux les observer. Ouais, c'est ça, c'est un peu délicat de pouvoir les observer juste comme ça. C'est une biodiversité qui est particulière parce qu'elle est en apparence invisible. Et en fait, quand on a la bonne méthode de prospection et notamment de piégeage, on s'aperçoit que c'est extrêmement riche en espèces. Mais le promeneur lambda qui va en forêt, il voit rien. Et c'est pas facile de le voir. C'est des choses qui vivent soit la nuit, soit des périodes où on n'est pas en forêt.
Et ces coléoptères, on les trouve juste en forêt ou on peut les trouver dans d'autres milieux aussi ?
Ah ben voilà, par rapport à ceux qu'on étudie dans le parc, on étudie simplement quasiment le tiers des coléoptères potentiels, c'est-à-dire et on s'est focalisé sur les coléoptères du bois mort, des forêts.
Ok.
En fait, il y en a environ 3000 en France, soit 30%, ce qui veut dire que le reste est soit dans les sols, soit dans les milieux ouverts, soit dans plein d'autres milieux, le milieu aquatique, etc. Il y a plein d'endroits où vivent les coléoptères, y compris dans nos denrées alimentaires. Et puis, ça fait un lien, en fait, ces coléoptères avec la sylviculture. Parce qu'il y en a certains qui ne sont pas du tout aimés par les sylviculteurs. Je pense notamment aux scolytes. Tout le monde a entendu parler des invasions de scolytes. Et alors, nous, on en a déjà dans nos forêts. Mais c'est le nord-est de la France qui a été beaucoup affecté par ces invasions de scolytes. Et on parle, par exemple, en 2020, l'ONF a récolté près de 26% de bois déclassé liés à des attaques de scolytes massives. Oui. Ils sont obligés de faire des coupes à blanc sur des secteurs qui sont massivement attaqués par des scolytes. Le problème de ces scolytes, c'est qu'ils vivent dans la première couche du bois qu'on appelle le cambium et ils pondent sous l'écorce et très rapidement, en fait, ils empêchent l'arbre de vivre et donc ils le font dépérir en une année, en moins d'une année. Donc c'est assez rapide. Donc d'où le besoin très rapide de réagir. Donc ces attaques de scolytes, elles interviennent souvent dans des forêts qui sont assez homogènes, qui sont assez régulières, et la forêt est moins résiliente, moins résistante à ce genre d'attaque si elle est traitée d'une manière régulière. Et aujourd'hui, les gestionnaires se remettent un peu en question sur les forêts monospécifiques qui sont plantées à la même époque, etc. Aujourd'hui, ils pensent à replanter la forêt d'abord en mélange, avec des essences différentes, des feuillus et des résineux, et également essayer de fonctionner sur le long terme, donc en forêt à couvert continu, comme le disait Loïc dans une précédente émission, pour qu'il y ait des arbres de tous les âges dans la même forêt. Et ça, on va voir que pour la vie des coléoptères, c'est essentiel. On s'est rendu compte, nous, en étudiant nos coléos sur l'ensemble du parc, qu'on avait un peu toutes les sortes de coléoptères, et dans les forêts qu'on étudie, c'est essentiellement surtout les vieilles forêts anciennes, peu modifiées par l'homme. On va trouver parmi les espèces les plus intéressantes, finalement, c'est des espèces prédatrices d'autres coléoptères. Et ces espèces prédatrices, elles sont plus exigeantes dans la qualité des milieux. Elles, notamment, on s'aperçoit qu'elles ont besoin de très gros bois morts. Et donc, quand on a ces très gros bois morts, on a en fait la capacité d'accueillir des coléoptères qui s'attaquent à ces fameuses espèces ravageuses. Donc, plus on a des gros vieux bois morts, des gros vieux bois vivants aussi, également, et plus on a la capacité d'accueillir les espèces qui vont limiter l'impact, notamment des scolytes. Parmi les espèces les plus patrimoniales, c'est essentiellement des prédatrices de ravageurs.
D'accord, donc si on comprend ce que tu dis, c'est que si on laisse faire quand même parfois un petit peu la nature, et finalement, elle s'autorégule, quoi.
Exactement, oui. Ouais, et donc, ça nous pousse et ça nous confirme qu'il faut essayer d'aller vers des gestions de forêt sur le long terme en essayant de conserver des très gros bois morts et des gros bois vivants qui vont assurer une certaine résilience, une capacité de la forêt à réagir aux attaques. Voilà les premières conclusions, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. C'est beaucoup amusé à étudier ces insectes, même si c'est à la fois très difficile parce que très, très diversifié. Qu'est-ce qu'on pourrait encore raconter Voilà, oui, ce que je vous disais, c'est que le problème de nos forêts cévenoles, il faut quand même les regarder avec un peu de recul. On a essentiellement des forêts qui sont jeunes. Même si on a quelques forêts anciennes et qui sont pas assez mélangées, qui sont bien souvent peu diversifiées en essence et surtout pas assez diversifiées en classe d'âge. Et c'est pour ça qu'elles sont assez sensibles. Certains ont vu des attaques de pins par la chenille processionnaire qui sont liées notamment à l'absence d'abri pour d'éventuels prédateurs de ces chenilles. Donc si on avait des forêts en mélange avec des chênes ou des châtaigniers, on aurait davantage d'abri pour tous les oiseaux qui s'occupent de manger les chenilles. On aurait moins ce problème d'invasion, de pic de chenilles processionnaires. Donc on peut moduler ce genre de problème en posant des nichoirs comme ça a été fait sur certaines forêts de pins monospécifiques. Mais maintenant, il faudrait réfléchir sur le long terme, quand on gère une forêt, il faut maximaliser la diversification des essences et des tailles de bois aussi. Voilà, j'aime bien revenir sur ces problèmes de ravageurs. La nature, des fois, fait apparaître, entre guillemets, si on peut parler comme ça, des ravageurs. On l'a vu, par exemple, pour le bombyx du chêne, il y a quelques années. Je me souviens, c'était dans les années 2000. Le bombyx du chêne, c'est une chenille qui s'attaque au feuillage des chênes verts, notamment.
Oui.
Et on avait une grande zone autour du Vigan, Saint-Mathieu-de-Tréviers, de plusieurs milliers d'hectares de chênes verts qui s'étaient défoliés brutalement. Et sur toute une année. Donc les chênes verts n'étaient pas tout à fait morts, mais avaient perdu leurs feuilles et on avait l'impression d'une forêt complètement décharnée. Et la nature est habituée à ce genre de pic et elle y répond très rapidement en faisant exploser les prédateurs de ces chenilles. Et quand on se baladait dans ces forêts qui étaient un peu défeuillées, on avait une quantité à folle de prédateurs rampants, notamment des coléoptères. Il y a un fameux callosome, un gros coléoptère brillant qui courait après les chenilles. C'était assez impressionnant à voir. Ils étaient mais très nombreux. C'était une impression assez folle. Donc voilà, il faut voir que la nature a toutes les ressources pour se battre contre ces ravageurs. Seulement, souvent, l'économie de nos forêts ne permet pas forcément d'attendre que la nature réagisse. Donc faut faire avec. Voilà, après, j'ai eu des petites anecdotes sur ces coléoptères, parce qu'on pourrait en parler des heures. Là, j'ai évoqué qu'un tout petit aspect des coléoptères. Si les scolytes, en fait, posent tant de problèmes, c'est qu'ils sont, je sais pas s'ils sont malins ou si c'est les champignons qui sont malins, parce que les scolytes, en même temps, qui ravagent le bois, quand ils passent d'un arbre à l'autre, donc ils vont concourir un autre arbre, ils vont amener avec eux, dans une poche quasiment fait exprès, des spores, du champignon, qui achève le travail des scolytes. Donc en fait, ils travaillent de pair, les scolytes, pour digérer le cambium. Ils n'ont pas trop de soucis, mais en apportant des champignons, ils vont aider le travail de finalement de recyclage de matière organique, donc de, ouais, de dépérissement du bois. Et voilà, le lien est très étroit globalement. Là, c'est qu'un petit exemple hein, entre champignons et coléoptères, mais globalement, les deux vont de pair dans une forêt. Les uns ont besoin des autres pour digérer le bois, et on s'aperçoit même qu'à l'intérieur, quand les scientifiques étudient l'estomac de beaucoup des coléoptères qui mangent du bois, on s'aperçoit qu'en fait, les champignons sont à la fois à l'extérieur et digèrent le bois eux-mêmes, seuls, et à l'intérieur, en fait, des tubes digestifs de ces coléoptères, il y a également toute une panoplie de bactéries et de champignons, de levures, en fait, qui participent à la digestion du bois. Donc finalement, c'est presque plus les champignons qui digèrent le bois plus que les scolytes. Les scolytes, c'est juste un... ou les coléoptères en général qui digèrent le bois. Voilà. Je pourrais en parler encore des heures. S'il y a des questions, je veux bien. Mais là, on évoquera d'autres aspects hein, de ces coléoptères. Notamment, je trouve que c'est très intéressant de voir... comment les coléoptères ont aussi également besoin de milieux ouverts pour vivre. Donc, ils ont, pour un bon recyclage de la matière organique, il faut des coléoptères dans une forêt. Mais on s'aperçoit que pour que ces coléoptères adultes, parce que c'est essentiellement les larves hein, qui vont manger le bois mort, pour que ces coléoptères adultes puissent se reproduire et se nourrir à l'état adulte, et donc répondre à nouveau dans du bois, il faut des milieux ouverts avec des fleurs. Il y a plein d'insectes qui ont besoin à l'état adulte de fleurs, donc de milieux ouverts le plus souvent, ou de clairières pour se nourrir. Donc il y a vraiment une interdépendance entre le milieu forestier et les milieux ouverts. On pourrait même dire que on devrait plutôt dire que le milieu ouvert fait partie intégrante de l'écosystème forestier. Donc, il faut arrêter de les dissocier dans leur gestion. Ils vont ensemble. Une bonne qualité de milieu ouvert offre de la nourriture, notamment pour les cervidés, mais pas que, mais aussi pour ces coléoptères qui vont aider au bon recyclage de la matière en forêt.
Tu pointes le doigt sur un gros débat entre agriculteurs et forestiers. Et oui, mais il faudra peut-être en reparler.
Ça va ensemble, pourtant.
Dans une prochaine émission.
L'écosystème, il n'est pas coupé en deux. C'est pas, ça, oui, on les gère de manière différente, mais pourtant, ils vont ensemble et qu'ils sont complètement interdépendants.
Ben merci, Émeric Simon. À bientôt.
Vous êtes toujours sur Radio Bartas, 107FM. Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous souhaitez qu'on aborde des sujets en particulier, n'hésitez pas à nous en faire part par mail à l'adresse suivante, corto@radiobartas.net. À bientôt.
À bientôt.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies.
Palabre en forêt,
l'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Bartas
107FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.